Le vrai roman national, où est-il justement? C'est le sujet que l'on va aborder avec vous, Jean-Christian Petit-Fils. Vous êtes historien, vous allez nous dire quelle est votre vision, vous, de la France et de l'identité de la France. On pourra parler aussi gastronomie si vous le souhaitez. Mais auparavant, nous allons entendre, j'allais dire, le maître des historiens contemporains, Fernand Braudel. C'était en 1972 sur sa conception de l'histoire.
L'histoire, c'est un dépassement de l'événement, parce que je ne crois pas que les nouvelles sonnantes, comme on disait au XVIe siècle, elles soient l'essentiel de la vie des hommes. On s'aperçoit que les guerres dont on parlait tellement n'empêchent pas l'essor de l'économie. On s'aperçoit que les périodes soi-disant de régression signifient pour la masse des gens qui vivent à cette époque-là une amélioration de leur vie quotidienne, une montée des salaires. C'est-à-dire qu'on cherche de plus en plus, un mouvement qui est un mouvement général, une histoire majoritaire. Alors l'histoire majoritaire, ce n'est pas l'histoire des quelques personnes qui sont sur le parvis ou sur le devant de la scène de ce théâtre du monde.
Fernand Braudel expliquant donc qu'il faut dépasser l'événement. Et lorsqu'on prend aujourd'hui la manière dont on raconte l'histoire, il y a des gens qui pensent que le cadre national n'est pas le cadre adéquat, qu'il faut le dépasser pour raconter l'histoire de la France. D'autres qui pensent que on peut avoir encore une histoire du roman national qui soit une histoire linéaire, une histoire qui comporte des dates, qui comporte un début, évidemment. Pas de fin. C'est votre cas, Jean-Christian Petit-Fils. Vous considérez qu'on peut raconter cette histoire? Et tout d'abord, puisque vous avez entendu l'actualité avec moi, j'aimerais savoir ce qui résonne à vos oreilles d'historien. Qu'est-ce qu'il y a dans le présent qui vous rappelle le passé?
Alors, d'abord, j'aime beaucoup Fernand Braudel, qui vient d'être cité, son Identité de la France, paru en 1986, est un ouvrage tout à fait remarquable. Je me souviens aussi d'avoir entendu une retransmission de sa fameuse conférence sur le siège de 1707, le siège de Toulon, devant des élèves, et où il mobilisait un peu toutes les sciences historiques, et les considérations géographiques pour faire comprendre aux élèves en profondeur ce siège de Toulon qui a été important pendant la guerre de succession d'Espagne, donc qui a mis la France aux prises avec l'Angleterre, l'Empire, etc. Voilà, donc l'histoire est quelque chose de capital dans notre pays, et on a été pendant longtemps même intoxiqué d'histoire, et même on l'est encore aujourd'hui dans nos débats politiques.
Donnez-moi des exemples.
Ben écoutez, c'était simple. Prenez ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an, en septembre 2016. Vous avez Nicolas Sarkozy qui dit à Franconville, le 19 septembre, s'adressant aux jeunes, « Quels que soient vos parents, jeunes Français, au moment où vous devez aider Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et Sévère Saint-Gétorix. » Voilà, donc on voit l'attaque. Cinq jours plus tard, et donc devant le tollé que ça provoque, bien entendu, il dit « Nos ancêtres étaient aussi les soldats de la Légion étrangère et les tirailleurs sénégalais. » Le 27 septembre, Jean-Luc Mélenchon répond « Moi, je ne veux pas d'ethnicisation gauloise du débat, mais oui, je vous dis, nous sommes les fils et les filles et les fils des Lumières et de la Grande Révolution. À partir du moment où l'on est français, on adopte le récit national. » Donc, on voit cette idée, finalement, d'intégration, d'unification que remplit l'histoire, chacun ayant d'ailleurs une vision différente de l'histoire.
Mais alors figurez-vous que j'ai lu Jean-Christian Petit-Fils, c'est-à-dire votre livre, « Histoire de la France, le vrai roman national », et j'ai repéré qu'il débutait en 841, c'est-à-dire que, si mes calculs sont bons, il ne comprend pas Vercingétorix, il ne comprend pas non plus Clovis. Il y a donc un choix de faire débuter cette France à une époque finalement plus tardive que celle que l'on retient d'ordinaire.
Oui, j'ai choisi cette date du 25 août 841 parce que c'est la bataille de Fontenoy en Puisaye, c'est pas la bataille de Fontenoy de Louis XV, hein, bien sûr, qui va opposer dans le pays d'Auxerre des armées considérables venues de l'Est, de l'Ouest, du Sud, entre les trois fils de Louis le Pieux, c'est-à-dire les petits-fils de Charlemagne, Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, et qui va conduire l'année suivante au serment de Strasbourg, donc l'alliance entre Louis le Germanique et Charles le Chauve contre Lothaire. Donc tout ça conduit en l'année suivante, en 843, le 10 août 843 très exactement, au partage de l'empire de Charlemagne. La France commence au partage de l'empire de Charlemagne. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille évacuer le soubassement gaulois, bon, vers Saint-Gétorix, c'est très loin, on est 900 ans avant, hein, après,
vous, pardon. Vous dites quoi quand vous faites débuter une histoire de France en 841? Vous dites quoi? Les Gaulois, c'était des Welges, des barbares, et finalement, ils ne nous ont pas fait. Vous dites, on est finalement plus romanisé qu'on ne le pense.
Oui, tout cela, c'est très intéressant. Mais il va y avoir aussi une intégration des cultures antérieures. Le baptême de Clovis va être fondamental dans la monarchie française. Mais la monarchie française, elle ne commence pas avec ces tribus franques qui passent de la Germanie à l'espace gaulois ou post-gaulois, gallo-romain. La France commence avec des frontières petites, il y a à peu près un tiers de moins qu'aujourd'hui dans la France de Charles le Chauve, et elle commence avec un pouvoir.
Si vous pouviez justement les dessiner, ces frontières de l'époque, puisque lorsque Brodel disait que la France se nommait diversité, elle se nommait diversité du point de vue donc de ses composantes, du point de vue de sa géographie aussi.
Alors, la géographie, évidemment, est absolument capitale dans l'histoire de France. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette date-là, puisque là, nous avons des frontières. Ce sont frontières, c'est tout petites, elles sont petites. Il y a une extension vers la Flandre, mais tout l'Est n'appartient pas à la France, c'est-à-dire une partie de la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, bien entendu. Le Lyonnais non plus. Donc on voit une France qui est très très largement réduite. Mais ce sont des frontières. Et à partir du moment où vous avez un mariage entre un pouvoir d'État centralisateur et des frontières, eh bien vous avez la France. Et il faut ajouter aussi une mémoire, un mythe national. Et ce mythe national, ça va être évidemment le baptême de Clovis, le couronnement de Pépin le Bref en 751. Toute cette mémoire franque va ressurgir et va être utilisée, instrumentalisée, diront certains. En tout cas, utilisée par la monarchie qui va devenir la monarchie très chrétienne.
Et alors, justement, qu'est-ce qui crée l'homogénéité de la France à cet égard? Ça n'est pas vraiment une langue. Les religions, on va en discuter, elles ont été nombreuses sur le sol de France.
Alors, dans ce livre, j'ai essayé de déterminer les éléments de l'identité française, qui est une identité ouverte. Alors, cette identité, elle a été, bien évidemment, on le sait, tout récemment, récupérée par les hommes politiques, l'identité nationale, on en a voulu en faire un ministère, etc. Mais si on essaye de faire un travail d'historien, on s'aperçoit que la France s'est construite autour de 5 piliers, grands piliers. Un État-nation souverain et centralisé. Un État de justice au service du bien commun. Un État laïque aux racines chrétiennes. Un État marqué par des valeurs universelles. Et un État multiethnique, mais assimilateur. Alors, ces piliers ont eu des hauteurs plus ou moins grandes selon les âges. Il y a eu même des régressions, bien entendu. Il y a eu des transgressions dramatiques, souvent. Mais c'est quand même, ça fait partie de l'identité de la France. Et la France ne s'est pas construite de la même manière que les États-Unis. Les États-Unis se construisent sur l'individualisme regardez cette idée de porter des armes aujourd'hui. Le shérif, qui est une personne privée, va exercer une notion de la justice dans le village. Vous avez là, en France, l'idée du bien commun assumé par l'État. Et c'est quelque chose de très important.
Mais alors, justement, Jean-Christian, petit-fils, est-ce que vous n'êtes pas certain que vous êtes, vous pourriez être, par exemple, victime d'une idéologie professionnelle? C'est-à-dire que vous considérez qu'il y a un roman national, c'est votre, d'ailleurs, rôle de l'enseigner. Est-ce que, finalement, cette identité nationale, elle n'a pas été beaucoup plus tardive que, vous voulez bien le dire, avec l'État jacobin, tout simplement parce qu'on voit bien que la France est très diverse, du Béarn à la Bretagne, il n'y a pas beaucoup de points communs, c'était pas la même langue, il n'y avait pas les mêmes coutumes, il n'y avait pas le même droit qui s'imposait, est-ce que finalement, ça n'est pas une illusion rétrospective de dire que tout ça, c'est la France ?
Alors, votre question est très intéressante, mais il y a tout de même deux temps, bien entendu, deux grands séquences. La première, c'est celle de l'État monarchique, l'ancien régime, qui a eu beaucoup de mal à unifier, à centraliser. L'édit de Villers-Cotterêts s'applique, et donc 1539 s'applique uniquement à la langue administrative, donc le français n'est pas parlé par tout le monde. Sous Louis XIV, moins de la moitié de la population parle français, ça c'est certain. Mais il y a tout de même une volonté unificatrice, malgré les corps intermédiaires qui sont étouffants, qui étouffent l'État central, qui cherche à le limiter. Il y a cette volonté lente de détruire des particularismes dangereux. Et puis, évidemment, il y a eu la table rase de la Révolution qui a finalement créé l'unité française. Mais tout ça se fait dans un mouvement. Il y a un continuum. Tocqueville l'a très bien montré. Il y a une continuité sur le plan de la centralisation entre l'ancien régime et le nouveau régime, la Révolution, avec quand même un trou dans les années 1715 à 1780, où là, on a une sorte de régression. Mais la République, une et indivisible, disait Charles Péguy, c'est notre royaume de France. Et ça, moi, j'aime beaucoup cette phrase-là, parce qu'elle résume, au fond, toute l'histoire de France.
Oui, alors, vous insistez beaucoup sur le fait qu'il faut nécessairement vibrer à l'évocation de l'histoire de France. On sait qu'il y a des phrases célèbres à ce sujet, Marc Bloch, Régis Debray, qui ont expliqué que si on n'avait pas les larmes aux yeux l'évocation...
Je vais vous dire la citation exacte. Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Et c'est d'ailleurs pourquoi, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce sous-titre, qui est un petit peu provocateur, je reconnais, le vrai roman national. Parce que on a eu un roman national qui aujourd'hui, évidemment, est obsolète, dépassé. C'est celui de la fin du 19e siècle, confortant les récits de Michelet, d'Augustin Thierry antérieurs, voire même la Henriade de Voltaire. Ce récit national qui s'est forgé dans un contexte de revanche à la suite de la défaite de 1870, évidemment, n'est plus de mise. Alors, les grands ancêtres, Vercingétorix, nos ancêtres les Gaulois, les grands ministres aussi, parce que, évidemment, le petit Lavis, le petit Lavis n'ose pas trop mettre en valeur les rois, et donc va parler des ministres Sully, Colbert, Turgot, Necker, plutôt que d'Henri IV, Louis XIV, etc. Donc ça, ce récit-là, il est dépassé. Il y a eu aussi une tradition qui est tout à fait remarquable, c'est une recherche universitaire, scientifique, l'école des annales en particulier, Marc Bloch, Lucien Febvre, et puis ensuite aussi tout le travail qui a été fait dans un autre sens de défrichement dans les années 60-70 sur les traites négrières, la décolonisation, tout cela était absolument indispensable. Et
c'est peut-être pas encore suffisamment fait pour les traites négrières, pour la décolonisation qu'on a essayé un peu de mettre sous le tapis, enfin plus d'ailleurs la colonisation que la décolonisation. Là, on est vraiment sur la toute fin de votre livre, puisque on est dans le chapitre du XXe siècle. Mais on voit, par exemple, que les Américains ont finalement beaucoup plus assumé la guerre du Vietnam et ses horreurs que nous, la guerre d'Algérie.
Oui, tout à fait. Mais alors, juste pour finir ce propos, donc entre ce roman national ancien, un peu frelaté, et puis ce récit national glacé, eh bien, j'ai choisi malgré tout de marier l'émotion Et bien sûr, la recherche historique la plus moderne, la plus pointue. Donc c'est au fond essayer d'avoir le souffle de Michelet et la rigueur de l'école des annales.
Bah, c'est surtout ce que vous rappelez, et c'est à mon avis essentiel de le faire, vous rappelez qu'au-delà de l'émotion, et d'ailleurs Marc Bloch le savait bien, l'histoire est là pour rendre les choses intelligibles, rendre le passé intelligible, et évoquer aussi ce que le présent doit à ce passé qui est parfois un passé enfoui et évidemment oublié par ceux qui ne sont pas des professionnels de l'histoire.
Oui, tout à fait. L'important, évidemment, là vous conduisez à l'idée de l'enseignement de l'histoire. Qu'est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui? C'est assez complexe. Est-ce qu'on doit réenseigner un roman national à l'ancienne? Non. Est-ce qu'on doit, et on l'a essayé de le faire dans l'enseignement, intégrer l'apport de l'école des annales en particulier, donc cet apport sociologique, géographique.
Oui, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que l'intérêt de l'école des annales, c'est de dire, voilà, l'événement en tant que tel, la date, les individus, tout ça, c'est pas si important que ça. Il y a des choses qui relèvent du collectif qui permettent de mieux expliquer l'histoire.
Oui, il faut marier les deux, bien entendu. Le grand problème, justement, et les défauts de l'enseignement dans ces dernières années, c'est d'avoir voulu enseigner les acquis de l'école des annales sans intégrer la chronologie. Alors là, on est dans une désintégration complète d'une culture. L'école des annales, par exemple, avec Marc Bloch, c'est l'idée des rois thaumaturges, par exemple. Ce livre est tout à fait remarquable, montrant comment le roi était censé guérir les écrouelles, c'est-à-dire une maladie tuberculeuse.
C'est ça, un thaumaturge.
Et le roi thaumaturge. Donc, il y a, ça montrait le caractère sacré de la monarchie. La monarchie s'ancrait dans le divin. Et par conséquent, c'était un apport nouveau par rapport à la chronologie.
On vous retrouve aux environs de 8h20, Jean-Christian Petit-Fils. Vous publiez une histoire de la France, le vrai roman national. Et puis on évoquera la querelle des historiens, parce que Brodel est en quelque sorte une idole tutélaire. Il y a des gens comme vous qui racontent l'histoire de manière linéaire. Il y en a d'autres, comme Patrick Boucheron, qui considère qu'il faut sortir des frontières de la France. Tous deux, vous êtes en quelque sorte les héritiers de Brodel, mais vous n'êtes pas d'accord sur la manière de raconter l'histoire. Et on va voir finalement en quoi votre conception diffère de celle de Patrick Boucheron et des autres historiens qui ont œuvré dans ce roman français, puisque tous deux, vous racontez la France, 8h sur France Culture.